plugin. Plongez-vous dans les courants qui ont marqué l'histoire, l'actualité du monde, les petites anecdotes ou bien encore l'air du temps.
Ok.
At the same time, excellent plugin for you.
Robert aussi pour l'histoire du rock à Marseille 1960-1980 dans l'émission Plug-in.
Plug-in.
C'est Whiteside à Plug-in.
C'est Nitrate dans Plug-in.
Plug-in.
Bonjour. Aujourd'hui pour cette reprise, Plug-in et rock. Au programme, la reformation du groupe Nitrate, le retour de Leroy du combo Whiteside. Tous présents dans le livre « L'histoire du rock à Marseille 1960-1980 » de Robert Rossi, musicien au sein du groupe Quartier Nord. Dans Plugging, la musique par ceux qui l'ont vécu, des récits musicaux trop méconnus qui ont forgé l'histoire du rock marseillais. Bonne écoute. Depuis 2006, Robert Rossi a glané les grands et les petits récits qui ont jalonné l'histoire du rock à Marseille, des anecdotes qui retracent la vie de ces combos rock souvent connus dans leur quartier et parfois embrassés des carrières professionnelles avec plus ou moins de notoriété. L'histoire du rock à Marseille 1960-1980 est présentée chronologiquement par rubrique rock, pop, psychédélique, hard rock, punk et même rock'n'roll déjanté. L'histoire du rock à Marseille, édité chez Le Mot et Le Reste, est, comme le dit l'auteur, une initiative qui mérite des compléments, voire même d'autres parutions ou encore une suite. Robert Rossi est l'auteur de l'histoire du rock à Marseille, 1960-1980. Il est l'invité de Plugin.
J'ai peur de pas arriver au bout. Heureusement, toute la journée, je me chante un blues particulier que j'appelle le blues.
Robert Rossi dit rock, je suis le chanteur de Quartier Nord et j'ai écrit une histoire du rock à Marseille, 1960-1980.
Tu es musicien, donc c'est quelque chose qui te parle, la musique à Marseille ?
Musicien, c'est un bien grand mot, parce que j'ai commencé à gratouiller en 72 avec Loise, le guitariste. On faisait des groupes qui duraient un an. Chaque saison scolaire, quoi, puisqu'on était au lycée, à la rentrée, on faisait un nouveau groupe avec une nouvelle tendance rock. En 76, on a eu l'idée de faire un groupe qui chanterait en marseillais. Donc on l'a expérimenté en 76, mais on n'a jamais fait de concert. Et on a commencé Quartier Nord fin 77.
Alors en pleine époque punk.
Oui, en pleine époque punk, mais nous, on n'était surtout pas nourris par les punks. Nous, on était sur toutes les tendances, Hendrix, Winter, Cream, Led Zepp, puis toutes les musiques dites progressives, de Magma, Yes, etc., etc., quoi.
Tu as dressé le portrait de Quartier Nord dans ton livre, mais c'est pas que, parce qu'en fait, il y a tous les portraits de tous les groupes des années 60 à 1980, et même un petit peu plus, parce qu'on est obligé de déborder. Ce bouquin, c'est un travail de longue haleine. Combien de temps tu as travaillé là-dessus ?
J'ai commencé en 2006. C'était une période où on montait des opérettes rock marseillaises, donc ça nous demandait beaucoup, beaucoup de travail, de montage de spectacles, que je pouvais pas m'occuper de ça. Et en plus, j'avais une thèse d'histoire à travailler, et je faisais ça en à côté. J'ai abordé ce thème par nécessité. Je croyais que quelqu'un allait commencer à travailler sur ce sujet, et les années passant, je me suis dit, mais il y a personne qui va travailler dessus. Surtout que j'ai vu qu'avant 2006, puisque c'est en 2006 que j'ai commencé à bosser, il y avait un dictionnaire du rap marseillais qui était sorti, ou une histoire du rap marseillais. Mais je me disais, avec tout ce que nos aînés ont vécu, et ce mouvement international qui était le rock, je veux dire, chaque fois qu'on allait à l'étranger, on voyait qu'on avait les mêmes références que tous les jeunes qu'on rencontrait. Donc c'était vraiment une musique universelle, quoi. Et on se disait, mais ce phénomène à Marseille ne va pas être traité. Donc je me suis dit, je vais commencer à faire une introduction à l'histoire du rock, parce que je vais pas me taper ça, quoi. Et donc j'ai commencé à recueillir des témoignages de manière à ce que un jour, s'il y a un universitaire qui veut se frapper ce travail, eh bien il puisse déjà avoir ces sources que j'aurais recueillies. Parce que je pensais déjà que certains de la génération d'avant moi, qui commencent à avoir un certain âge, décéderaient aussi. Et donc je me disais, c'est bien de les recueillir maintenant, c'est maintenant qu'il faut faire ça. En 2007, je me suis arrêté. J'avais toujours l'idée, évidemment, mais c'était un apport. Donc j'ai passé ma thèse en 2014, donc ça m'a enlevé quand même un souci, quoi. Et j'ai recommencé vraiment en 2015 et 2016. Et donc, j'ai réamorcé, mais toujours dans l'idée de faire une introduction à l'histoire du rock. Et là, je pouvais pas le faire sur des archives. Il y a que quelques articles, quelques photos, quelques disques quand même enregistrés, mais enfin, c'est pas la totalité des groupes, quoi. Et donc, je me suis dit, bon, c'est que sur le témoignage, c'est que sur l'interview. Mais les interviews doivent être recoupées quand elles peuvent être recoupées, quoi, entre plusieurs membres de groupe, etc. Et donc, là, j'ai commencé à travailler sérieusement. Mais quand j'ai commencé à chercher un éditeur, évidemment, un éditeur, ça n'intéresse pas une introduction à l'histoire du rock. Donc, quand j'ai rencontré Yves du Mot et du Reste, il m'a dit, il faut faire une histoire du rock tout court. Mais là, je me suis dit, je peux pas traiter jusqu'à aujourd'hui. Je pensais d'ailleurs, même au départ, en 2006, le faire avec quelqu'un, le faire à deux. Mais personne ne s'est senti de le faire. Donc, je me suis dit, je vais m'arrêter en 80. C'est-à-dire tous les groupes nés avant 1980. Voilà.
Tu as fait ce regroupement à travers les interviews simplement ou tu t'es appuyé sur d'autres éléments ?
Essentiellement sur des interviews. Après, les autres éléments, c'est plutôt les musiciens qui m'ont eux-mêmes donné des articles. Voilà. Déjà, il y avait les musiciens que nous, on connaissait, plus anciens que nous. Par exemple, nos guitaristes allaient prendre des cours chez eux. Je pense à Claude Djaoui, qui était le guitariste de Rocky Volcano, qui après il a joué dans l'idée, tout ça, qui est un guitariste de jazz. Mais quelques-uns de nos guitaristes étaient allés prendre quelques cours chez lui. Donc, je suis allé voir Claude Djaoui. Après, Richard Kenning. Quand j'étais jeune, 16 ans, 18 ans, j'allais voir Barricade, donc ça fait des ramifications, ça. Je connaissais Santa Maria parce que notre première maquette, on l'avait faite au Grotte Loubière, et donc c'était Albert Hérault qui nous avait enregistré. Et après, pour la fin des années 70, c'était beaucoup plus simple parce que c'était notre génération à nous. C'était le moment où on a débuté, quoi. Bon, donc, entre les souvenirs, nos souvenirs en tant que musicien et en tant que spectateur et les contacts, et puis après de fil en aiguille. Par exemple, quand je suis allé voir le batteur René Arousse, qui avait fondé un groupe qui s'appelait Hurricane, dans lequel jouait Loise, notre guitariste, bon, à l'époque, en 76, je suis allé le voir et il m'a dit, lui, les groupes qu'il allait voir jouer quand il était jeune, lui, quoi. Donc voilà, et après, je recherchais à retrouver ces groupes qu'il allait voir jouer, et j'en ai retrouvé pas mal, quoi.
Ça s'étoffe avec un tas de groupes jusqu'en 1980, mais tu pouvais pas tout garder. Qu'est-ce que tu as privilégié dans le texte ?
J'ai commencé toujours les interviews des musiciens, des groupes, en parlant évidemment du groupe, en tant que, disons, représentant du groupe, mais je leur ai fait raconter leur histoire personnelle et comment ils sont arrivés à la musique. Alors, une petite note, je dirais, sociale en disant d'où ils venaient, parce que c'est très important, simplement par la profession des parents. Ça peut paraître un peu lourd des fois sur le bouquin, mais j'ai tenu à ce que ça y soit. Ça. Des fois, d'ailleurs, ils ont trouvé ça très saugrenu, mais on voit aussi par rapport aux courants musicaux de quelle classe sociale arrivaient les musiciens, quoi. Donc ça fait des petites histoires personnelles qui donnent l'humanité, quoi, du bouquin, quoi.
Il y avait les groupes, les portraits de groupes qu'on peut retrouver dans le livre, hein, l'histoire du rock à Marseille 60-80, mais il y a aussi l'environnement. Alors c'est les bars, c'est les lieux de concert qui ont été cités, d'ailleurs on en découvre pas mal dans le livre, au moins pour les plus anciens. Il y a les studios, tu parlais de Santa Maria et le premier studio à Marseille, les Grottes Loubière. Après il y en a eu d'autres comme le Cactus, etc. Cet environnement, tu n'as pas pu l'étoffer, parce qu'en fait finalement, les groupes étaient mis en avant.
Oui, ça c'est un parti pris. C'est un parti pris de parler des groupes. Ce sont les acteurs. Et je regrette, par exemple, qu'aujourd'hui, à Marseille, on interviewe toujours des directeurs de théâtre, des directeurs de lieux, tout ça. Et souvent, les artistes passent à l'as. Alors que moi, non, je trouvais que l'histoire du rock à Marseille, c'est les acteurs du rock. Robert Rossi pour l'histoire du rock à Marseille 1960-1980, dans l'émission Plug-in.
Plug-in.
Du Mistral, il y en avait. De l'ambiance, il y en avait. De la musique, il y en avait. Des chevelus, il y en avait. Pour accueillir ce matin à Marignane, qui ? Les Rolling Stones. Alors mes frères, ayons une pensée pour la salle Valier. Oh yeah !
Par exemple, Il y a Why Not qui a fait la première partie des Stones. J'ai trouvé ça très intéressant parce qu'ils me parlent pratiquement que de leur première partie des Stones et surtout des Stones. Mais je n'ai pas voulu parler de tous les grands stars du rock qui sont venus jouer à Marseille. Ça, c'est un autre bouquin, quoi. Par contre, c'est eux qui m'ont raconté les bars où ils allaient, les boîtes, etc., etc. J'ai pas mis ça en exergue, mais bon, comme la plupart des groupes jouent souvent dans les mêmes lieux, donc c'était souvent. Et puis, par exemple, je parle de Benedetti, de Carbonel, des luthiers, des sonorisateurs, enfin des fabricants d'amplis et de micros. Bon, mais c'est vrai que j'ai privilégié les musiciens.
Dans la lecture que j'ai pu en faire, hein, du coup, il y a quelques lieux qui passent à l'as, et surtout des figures, parce qu'en fait, autour de la musique et des groupes, il y avait aussi des managers, il y avait des magasins de musique. Cet environnement-là, ça t'a pas manqué ?
Bon, les magasins de musique, il y a quand même Concon, que je connaissais absolument pas pour la Libération. Il y a Battaglia Musique, il y a les Scotto, Gaffarel, Procyon, oui, voilà. Et puis, tu dis que je parle pas de manager, peut-être pour la fin des années 70, mais par contre, pour les années 60, je les cite, les managers, parce que ça tournait de la frontière italienne à la frontière espagnole, sans arrêt, quoi. Et là, il y avait des managers dignes de ce nom, c'est-à-dire que ils bouffaient de ça, quoi, ils vivaient de ça. Et ça, ça m'a surpris. Donc, j'ai suivi ce que m'ont raconté les musiciens.
Tu retiens quel groupe dans les années 60 ?
Ce que j'ai trouvé très bon, San Rose, avec des musiciens qui au début jouaient du rock yéyé, quoi, et qui après, au passage des années 60 et 70, font du jazz rock. Bah, ça, vraiment, j'ai trouvé ça remarquable. Un groupe qui s'appelle ZNR, qui est sorti de la mouvance de Barricade, qui faisait des trucs très chiadés, mais complètement starbés aussi, et qui ont fait deux albums, ça, je suis très surpris. J'ai trouvé à la réécoute que Lawlessness était vraiment pas mal, c'est très bien joué, et puis dans les trucs qui arrachent, Wild Child, ça arrache bien. Dans les histoires, il y a des trucs incroyables, les gadgets qui s'installent en Italie, production italienne, etc. Et puis qui finit très mal, quoi, dans un virage de la côte pugliese, des Pouilles, en Italie. Après l'histoire de Barricade, qui fauchait dans les supermarchés, qui squattait la villa de Pierre Schaeffer. Même quand ils allaient jouer dans les festivals, ils voulaient pas payer les moyens de locomotion. Voilà, c'est toute une manière de voir les choses. Chez les copains, bon, il y a les Leda Atomica.
Marseille. Bouche de vieille.
C'est passionnant parce que ça exprime justement ce que je disais tout à l'heure, la mouvance et un monde disparu, quoi, voilà. Et puis Corbeau, parce que la trajectoire, elle est incroyable. Enfin, Corbeau, c'est plutôt Albert et sa fanfare. Une trajectoire incroyable, quoi, dans les milieux de fanfare à Paris, les Beaux-Arts et tout, actuels, les milieux d'extrême-gauche de l'époque, le congrès des non-alignés à Alger, à Myriam Makeba, les Black Panthers, tout ça. Voilà, ça, c'est passionnant, quoi.
Ce n'est pas normal. Il y a beaucoup à lire dans ton livre. Alors actuellement, il y a très peu de groupes qui sont au complet. On les compte sur les doigts de la main à Marseille, hein, depuis cette époque. Donc il reste Quartier Nord, qui est pratiquement au complet. Mais il y a eu beaucoup de monde dans Quartier Nord aussi. Il y a Nitrate qui est au complet. On peut en citer d'autres comme ça, qu'on peut retrouver au complet.
Peut-être, mais le fait est qu'ils ne jouent plus ensemble. Et puis Nitrate, là, se reforme pour un truc exceptionnel. En tout cas, de ce que j'ai vu, il n'y en a pas beaucoup qui ont exprimé l'envie de renaître. C'est possible qu'ils renaissent un jour aussi, hein, mais bon, il faudrait se grouiller maintenant. Mais...
Sur cette note, un petit quiz comme ça par rapport à l'histoire du rock des années 60 à 80, par Robert Rossier. Après avoir écrit ce livre, le deuxième mot qui suivrait, le mot rock, après avoir fait tous ses portraits.
Galère, c'est évident. Quand je vois le parcours de Wild Child, par exemple, ils partent à Paris, mais ils n'ont pas de point de chute. La différence, par exemple, avec Alanda, qui a fait la même chose, mais eux, ils avaient des points de chute. Bon, ça a été une grosse galère aussi. Ce que j'en retiens aussi, c'est que cette galère, quand on décide de rester à Marseille, on est hors circuit, puisque tout se passe à Paris, et les mecs qui vont à Paris, ou ils changent leur nom et ils font ce qu'on leur dit de faire, ou alors ils continuent à galérer et finalement ils s'épuisent. Donc c'est vraiment la galère dans tous les sens du terme, de quelque manière qu'on la prenne, c'est la galère, quoi. Et je pense aussi que finalement, en ayant fait le tour et en ayant vu des éditeurs qui n'ont pas voulu jouer le jeu, en me disant texto, non, le rock à Marseille ne m'intéresse pas, une histoire du rock à Marseille ne m'intéresse pas parce qu'il n'y a pas de star. Effectivement, le rock reste l'anté-musique. Je ne parle pas des anglo-saxons, mais chez nous, c'est encore l'anté-musique.
le mot que tu associerais aux lieux que les musiciens ont fréquentés dans cette période-là?
Les lieux, essentiellement, c'est les boîtes. C'est les boîtes, par exemple, moi je ne connaissais pas le Soupirail, bon, il y a des lieux emblématiques, l'Arsenal des Galères et tout ça. Nous, on ne les fréquentait pas du tout. Nous, c'était les facs. On détestait les boîtes parce que avant 77, dans les petits groupes qu'on avait, on allait jouer dans les boîtes, mais ça nous a dégoûté, quoi. Et on avait l'opportunité de jouer dans les amphis, et donc pour nous, putain, c'était vachement plus intéressant, quoi. Parce que effectivement, c'était que dans des boîtes, hein.
Voilà. Ton livre est accompagné d'un CD.
Le CD a été fait dans un laps de temps très rapide. C'était juste avant que le bouquin sorte, donc il fallait vite qu'il sorte pour pas mettre en péril la sortie du bouquin. Et donc il fallait qu'il soit libre de droit. On n'avait pas la possibilité d'aller dans les maisons de disques, surtout que maintenant on ne sait plus. Par exemple, Rocky Volcan ont été chez Philips. Philips, maintenant, c'est chez qui? Est-ce que c'est chez Sony Music, Universal? J'en sais rien. Et surtout, on n'allait pas s'embarquer dans ce type de délire, quoi. Juste pour une illustration. Donc, ça fait que les groupes qui ont fait des 45 tours dans les années 60, je parle du début des années 60, c'est forcément des gens qui étaient dans une vraie maison de disques, quoi. Une major. Et donc là, interdit, on ne va pas toucher à ça, c'est trop dangereux. Donc on commence que à la fin des années 60, donc il y a choc, c'est la période Woodstock, donc pratiquement les années 60 ne sont pas sur le disque. Après, c'est dommage parce que, par exemple, on aurait bien aimé mettre les 5 gentlemen d'In ou Dylan, parce que il paraît qu'il s'en est vendu à peu près 35 000 exemplaires, ce qui n'est pas négligeable à l'époque. Donc c'était quand même un tube à l'époque, mais interdit, on peut pas. Donc c'est pas les meilleurs titres qu'il y a dessus, c'est ce qu'on a pu récupérer. Donc c'est une illustration, mais là aussi qui est alors encore moins que le bouquin exhaustif.
On va se retrouver le 29 au Poste à Galène pour un concert qui va faire venir les Bootleggers, les Nitrates, le Whiteside. Pour annoncer le concert, tu dirais quoi aux gens pour qu'ils puissent venir voir un petit peu la cartographie de ton livre?
Alors, les Bootleggers, ils sont nés juste après. Mais j'ai voulu les inclure dedans parce que ça me faisait trop mal au cœur de pas en parler. Ils ont commencé avec un groupe de hard rock qui s'appelait Serail. Et donc, c'est pas ce subterfuge que j'ai vu en parler, tout ça. C'est le rock vivant de cette époque, quoi. En fait, c'est ce qui reste de cette époque. Ça assure de folie, quoi. Alors, Nitrate, par contre, ça fait longtemps que je les ai pas vus.
La reformation 30 ans après.
On va redécouvrir, quoi. Voilà, c'est ça qui est intéressant, quoi.
L'avenir de ce bouquin, tu le vois comment? C'est-à-dire qu'il y a forcément une suite.
Pour l'avenir de mon bouquin précisément, Jean-Marc Montera me disait il n'y a pas longtemps.
Jean-Marc Montera qui est cité dans ton livre.
Oui, ben, au noir, avant de faire de la musique improvisée. Et donc, il me disait, c'est pas un bouquin qui sort, on fait un gros truc et puis ça s'arrête. C'est un bouquin qui est destiné à perdurer, et je le dis au tout début du bouquin, ça peut pas être exhaustif, moi. Mais à améliorer, je disais au gars de Nitrate, qui me faisait quelques critiques, j'ai dit, mais j'ai pas la science infuse. En histoire, nous, nos profs, ils nous disaient, il faut remettre en cause. Si vous voulez apporter votre eau au moulin, c'est que des histoires de musiciens, ça. Et puis, il y a des tas de trucs inexplorés, quoi. Après, pour la suite, Yves Jolivet, donc du mot et du reste, m'a dit qu'il avait trouvé quelqu'un pour faire la suite. Parce que moi, non. D'abord, premièrement, j'étais beaucoup plus intéressé par cette période, parce que c'est la période de mouvance. Que ça soit le rock yéyé des débuts, au rock, blues rock expérimental, voilà, c'est des grandes mouvances internationales, quoi. Ça m'intéressait beaucoup de le traiter, quoi, en tant qu'objet historique, quoi. Aujourd'hui, c'est plutôt des poches de résistance. Je connais beaucoup moins le milieu, et c'est bien qu'il y ait quelqu'un beaucoup plus en phase qui s'y attelle. Voilà.
Merci.
Merci à toi. L'histoire du rock en Marseille 1960-1980 dans l'émission Plug-in.
Plug-in.
Nitrate, du rock dur, mais du rock français. Dans le milieu du rock, on les considère du reste comme l'un des meilleurs groupes de la région dans leur style.
Quand on parle de Nitrate, on résonne en teneur naturelle. Depuis 1978, la teneur du groupe Nitrate est rock. Associée à de nombreuses légendes urbaines, parfois justifiées, le groupe a roulé sa bosse en studio, en concert et même en maison de disques, type Underdogs, sans avoir gravé une galette. Le groupe a tout de même marqué par sa fougue les esprits de l'époque, comme groupe rock rebelle. Après plusieurs tentatives, le groupe se reforme à l'occasion de la sortie du livre « L'histoire du rock à Marseille, 1960-1980 » de Robert Rossi, dans lequel figure aussi une autre légende du rock marseillais. Whiteside a la carrière fulgurante mais intense, aux côtés de groupes tels que Téléphone, Trust ou encore Starshooter, des enfants sauvages inspirés des Doors ou de la contre-culture américaine, eux aussi rebelles et incontrôlables, mais désormais inscrits dans l'histoire du rock français. Leroy de Whiteside et le groupe Nitrate au complet sont présents dans Plugin. Plugin.
Salut, c'est Max de Nitrate.
Chris de Nitrate.
Leroy Whiteside.
Salut, c'est Patrick de Nitrate aussi.
Je suis Alien de Nitrate.
Petit Nitrate, Rémi de Nitrate.
Plus de 30 ans après, le groupe Nitrate se reforme. On y retrouve toute l'équipe avec un groupe au complet. En répétition ici à Marseille, en prélude au concert du 29 au Poste à Galène. Quelle impression de retrouver tout le monde comme ça.
Beaucoup d'émotions, hein, après toutes ces années. Là, je suis comblé, avec les répétitions vont bien. On a une bonne couverture médiatique et on remercie Radio Grenouille aussi. Donc c'est que du bonheur et beaucoup de mauvaises vibrations qui s'en vont comme ça. Super.
C'est une thérapie, quoi.
Une thérapie, rock'n'roll thérapie.
Pour ma part, c'est mon premier groupe. À l'époque, je devais avoir 15 ans quand j'ai commencé la musique. Mon premier groupe, ça a été Nitrate. Et j'ai été un peu formé au rock'n'roll par eux. C'était des grands. Moi, j'étais le petit, je suivais. Ça me fait hyper plaisir de refaire ces morceaux-là, quoi.
Non, mais c'est évident. On va enfin peut-être pouvoir montrer qu'on avait aussi des très très bons morceaux. Voilà, c'est surtout ça, parce que remis toutes les embrouilles qu'on a pu avoir dans notre vie avec ce groupe, qu'on regrettera jamais de toute façon, les morceaux sont bons et on les joue bien. Et puis les gens, je pense qu'ils vont voir quelque chose qu'ils n'ont jamais vu finalement. Il y en a beaucoup qui nous connaissent sans nous avoir vus. Là, je crois qu'ils vont voir et entendre.
Alors Leroy, tu vas participer à ce concert le 29, avec Whiteside, toi aussi tu as une carrière énorme. Quelle impression de remonter sur scène comme ça, sous le nom de Whiteside ?
Ben, y a beaucoup d'émotions, et surtout j'étais très touché de la part de Nitrate de m'inviter pour qu'on puisse jouer des morceaux de Whiteside sur scène. Hein. Donc c'est aussi une grosse émotion, parce que disons que Whiteside a vécu, y a beaucoup de larmes qui ont coulé par rapport à certains événements. Ben, là je me retrouve un peu comme un gamin qui reprend la guitare et qui joue avec un groupe.
Whiteside, qu'on entend parler de temps en temps dans des rééditions de compilations avec aux côtés de Trust, Téléphone et autres groupes. Ouais. Mais Whiteside est toujours présent sur vinyle et disque.
Oui, exact. Là, en décembre 2015, il y a une compilation qui est sortie sur Celluloid qui représente un peu tout ce qu'a fait Whiteside sur disque et notamment le troisième album, The Next Decline, qui n'est jamais sorti en fait parce que le groupe s'est séparé en 85 et donc ils ont voulu sortir l'album qui n'était jamais sorti au sein d'une compilation qui est sortie en 2015, c'est Celluloid.
Du coup, tu vas jouer quelques morceaux sur scène, oui. Deux, trois titres comme ça de Whiteside qui vont être joués avec Nitrate.
Exact, il va y avoir Children Insane, Dusty Frame et The Next Decline. Voilà. Donc là, on est en train de répéter. On est un peu fébrile. Je suis un peu fébrile, moi.
Et j'ai un petit truc aussi à ajouter. Est-ce que nous, on est très, très fiers de jouer avec Leroy et les morceaux de Whiteside ? Parce que nous, de toute façon, comme on est un tout petit peu plus jeune, en fait, nous, on aimait Whiteside. Et on était des fans de Whiteside. C'est terrible, quoi, qu'il nous arrive ça. C'est génial. Voilà.
Alors, Nitrate aussi, il y a des morceaux mythiques, de Suzy à Roxy, etc. Le 7, ça va être quoi ?
Alors en fait dans le groupe Nitrate il y a trois chanteurs, il y a Christian qui chante, Alien aussi et moi. Donc on a choisi déjà trois morceaux pour illustrer où chacun chante. Et après on a pris les tubes, entre guillemets, les morceaux les plus connus comme Stigmatisé ou Suzy. Et autrement, il y a Los Alfacas chanté par Chris et Curiole chanté par Alien qui sont des incontournables, c'est clair.
Alors vous êtes tous des musiciens, vous continuez des carrières de musiciens à droite à gauche avec vos groupes, hein, ça va de Belphégors à U-Turn, etc. Les Mythomènes, les Cavistes. Quel effet ça fait de revenir sur des morceaux comme ça que vous n'avez pas joué depuis 30 ans ?
Moi à un moment donné j'hésitais parce qu'en fait je me demandais si vraiment les morceaux ils tenaient encore le choc. Et il y a une patate en fer, il y a des climats, c'est voilà, on est content, nous franchement on est content.
La plus grosse difficulté pour revenir au répertoire ?
C'est comme le vélo, ça s'oublie pas. J'ai l'impression qu'on a répété la semaine dernière et
c'est vrai, ça revient,
j'ai pas de, ça se fait naturellement les choses. Il n'y a pas besoin de chercher. Il y a quelques breaks qu'on remet en place, mais c'est tout quoi. Les morceaux ils sont là quoi.
Moi ce que j'apprécie c'est que on retrouve l'esprit qu'on avait à l'époque quand on les a joués, quand on les a créés. Mais en plus maintenant comme tu as dit, on a eu des carrières musicales. On s'est vachement amélioré tous musicalement parce qu'à l'époque moi je débutais quoi. Et là donc il y a deux fois plus de plaisir. Les morceaux sont aboutis. Voilà.
Sur la scène du Poste à Galène, il va y avoir du monde. Il y a plein de gens qui reviennent vous voir. Il y a votre réputation qui vous a précédé. Les plus jeunes ne connaissent pas, mais nous, on a connu. Cette réputation que vous avez, vous voulez vous en démarquer, vous la revendiquer, parce qu'en fait, quand on lit le livre de Rossi, il raconte un petit peu toutes les anecdotes qui vous sont arrivées.
On renie rien, mais on aimerait qu'on soit reconnu comme musicien et pas uniquement comme des turbulents, des agités, des voyous, et tout ce qu'on a pu dire. Voilà, on est avant tout des musiciens. Et maintenant, on a acquis une certaine maturité, je pense, et j'espère que les gens maintenant vont avoir le souvenir d'un bon groupe de musique rock avec des compos qui sont assez aboutis, sans le renier.
C'est compliqué parce qu'en même temps, c'était l'esprit du groupe. Et les morceaux, quand on les faisait, on était très acides avec les textes et tout. Donc, oui et non, quoi, je veux dire. Moi, je le revendique un peu quand même, cette réputation.
On le revendiquera toujours parce qu'on l'a fait. On était des voyous, mais tendres au cœur. On était des loupards, des trublions, voilà. Mais on sait faire de la musique. On a merdé tout le monde. Et de toute façon, si tous les gens avaient fait comme nous, on n'en serait pas là aujourd'hui. On était des punks, voilà, des vrais punks. Pas les punks de maintenant, il y en a qui se reconnaîtront.
Alors, côté punk, il y avait les Whitechild. Mauvaise réputation. Et j'ai vu des tags partout, vous avez profané la tombe à Morrison, vous avez fait des trucs comme ça.
Oui, on peut appuyer sur le bouton Joker.
D'ailleurs, c'est pas dit dans le livre, ça.
Whitechild a toujours été respecté parce que nous, c'était tout droit. Nous aussi, on avait une réputation, mais disons, on avait surtout une réputation de non-concession. Il n'y avait pas d'ambiguïté. D'ailleurs, quand on nous a proposé de signer, mais il fallait chanter en français à tout prix. Donc, on a eu des contacts, on a eu des gens comme Zermati, on a eu des gens de EMI, et malheureusement, on a été un peu bloqué par ça. Alors c'est pour ça qu'on est allé jouer un peu ailleurs qu'en France. On faisait des disques, on montait sur scène, on envoyait la sauce, on ne faisait pas de concessions.
Alors un concert le 29, mais aussi à la postérité dans le livre de Robert Rossi, l'histoire du rock à Marseille. Vous l'avez lu ?
Oui, je ne savais pas que j'avais joué autant de groupes avant. J'avais complètement zappé les groupes dans lesquels je figurais. Et je pense que malgré les erreurs, on n'en parle pas, parce que ce qui est important, c'est que Rossi a fait, c'est qu'il a montré ce qui se passait à Marseille, ce que Marseille a donné comme musicien et comme groupe. Ce qui compte avant tout, c'est de faire voir à certaines personnes que c'est le rock à Marseille qui a dominé pendant des décennies. Et c'est dommage qu'aujourd'hui, on essaie de l'oublier.
Le livre de Rossi, c'est comme une sorte de catalogue des groupes de l'époque sur une certaine durée. Mais c'est vrai que tu prends des groupes comme Nitrat ou Whitechild, c'est pas en deux pages que tu peux les résumer, ces groupes. Voilà, il en faudrait plein de livres, en fait, comme ça. Voilà, c'est ça qui est terrible, quoi.
Moi, j'ai appris des choses sur moi en lisant le livre.
Il y a le livre, il y a le concert, mais là, est-ce que Nitrat va ressortir une galette ou quelque chose comme ça, au moins pour les fans ou pas ?
Il n'y a rien de prévu pour l'instant. Une t-shirt, ouais, il y a des t-shirts et des affiches qui nous restent.
Ce qui serait bien, c'est que si on a la possibilité, c'est d'enregistrer le concert et à la limite sortir un live, mais je pense pas qu'il y aura plus que ça, quoi.
En tout cas, il faut être au concert pour vous voir. Pour pas vous rater. Pour Whitechild, on a eu la discographie tout à l'heure. Tu vas monter sur scène pour les morceaux de Whitechild, mais tu vas aussi jouer avec Nitrat ou pas?
Oui, je vais faire quelque chose. Attendez-vous au pire. Mais bon, voilà, je vais monter aussi sur scène avec Nitrat.
Non, mais il faut à tout prix avoir Leroy Stanner avec nous au cœur sur Roxy. Parce que ce qui te dit pas, c'est que c'était le groupe préféré des travestis de Marseille. Hein, alors sur Curiole ou sur Roxy.
En ce qui concerne Whitechild, on avait un public assez hétéroclite, notamment tous les travestis de Curiole nous aimaient, ils venaient à nos concerts. Et d'un autre côté, on avait des concerts où on n'avait que les Los Angeles de Marseille qui venaient nous voir. Les anecdotes Nitrat, les anecdotes Whitechild, il y a des ressemblances quelque part. Voilà.
Quelqu'un pourra peut-être dans le futur écrire un livre plus complet. Mais dans tous les cas, on remercie Robert aussi et les éditions Le Mot et le Reste d'avoir fait ce travail de mémoire. Sinon, le rock serait passé aux oubliettes. Comme on dit souvent avec Christian, c'est vrai qu'il y a deux sortes de gens. Il y a les musiciens qui font du rock et il y a les rockers comme nous qui font de la musique.
La phrase mythique de Whitechild, c'est quoi ?
C'est « power on stage ».
Et Nitrat, c'est
« ni Dieu ni Trat ».
Spéciale dédicace à Joël. Merci, on se retrouve le 29 au Poste à Galène. Merci à tous.
Merci. Merci. Ciao, ciao.
Merci, Robex.
Merci, Robex.
Plugin. Notez bien les festivités organisées par les éditions Le Mot et le Reste pour fêter la sortie du livre « L'histoire du rock à Marseille 1960-1980 » de Robert Rossi avec exposition et dédicace, avec en concert et pour l'apéro les Insomniacs au Lollipop Music Store.
Puis, à partir de 21h, un concert gratuit avec les Bootleggers, Franca des Cops and Robbers, Nitrate et Whiteside au Poste à Galène. L'histoire du rock à Marseille de 1960 à 1980 de Robert Rossi est éditée aux éditions Le Mot et le Reste. Avant de se quitter, veuillez noter que Nitrate est l'invité de l'émission L'Oreille Cassée de 19h à 20h ce jeudi 28 sur radiogrenouille.com. Voilà, c'est terminé. On se retrouve la semaine prochaine. Contact de l'émission plugin@orange.fr et n'oubliez pas, au troisième millénaire, tout reste à faire. Plugin.
Retrouvez Plugin chaque semaine le mercredi à 11h30, rediffusion le jeudi à 17h. Plugin, une production plateauradio.com.